Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas d'œuvre? La foi pourrait-elle le sauver? Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as de la foi, moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi en dehors des œuvres. Moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. »
Soyez les bienvenus, frères et sœurs, pour ce culte à notre Seigneur. Au sein de notre communion fraternelle, nous rendons disponibles à recevoir les bienfaits de la parole de Dieu. Nous proclamons la grâce de Dieu, qui est le fruit non pas de nos efforts, mais de la grande libéralité de notre Créateur. Je vous invite à vous lever. Pour la louange au Seigneur, merci au Seigneur pour cette semaine écoulée, pour tout ce qu'elle nous a appris et malgré ce qu'elle nous a pris. Une semaine de toute façon en ta présence, merci de donner cette nouvelle semaine pour apprendre ce qu'être ton disciple veut dire. Puissions-nous, dans cette semaine qui vient, accomplir ce que nous sommes appelés à faire. Amen. Et nous chantons maintenant le page 572, le cantique 41-08. À vous rasseoir et aussi à vous recueillir dans la prière de conversion. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Nous sommes invités dans cette prière à rendre claire dans nos cœurs cette affirmation des psaumes. À nous qui pourrions ne pas en avoir mesuré la force, ou être passés pour nous-mêmes ou pour notre prochain à côté de cette gracieuse proposition. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Tout en restant assis, et page 714, je vous invite à chanter la strophe numéro 1, du 46-02, le 46-02, strophe 1. Que tous ceux et celles qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Voici ce que déclare le Seigneur. Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il puisse changer et qu'il puisse vivre. Lève-toi et va, nous dit Jésus-Christ. Ta foi t'a sauvé et va en paix. Je vous invite à vous relever pour chanter la strophe numéro 2. Du même chant, le 46-02.
Bye. Nous écoutons la volonté de Dieu avec cette question posée par Paul au Seigneur dans le livre des Actes. Il dit « Que veux-tu que je fasse ?» Nous demandons au Seigneur ce qu'il voudrait que nous fassions. Et nous chantons la troisième strophe du 46-02. À vous asseoir. Avant de lire la Bible, écoutons cette parole du prophète Ésaïe au chapitre 50, verset 5. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé et je ne me suis pas dérobé. Nous lisons maintenant le texte de l'évangile de ce jour dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22. Alors Jésus dit aux foules et à ses disciples, « Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse. Faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront. » Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des charges lourdes, difficiles à porter, pour les mettre sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des gens. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les houppes de leurs vêtements. Ils se plaisent à avoir la première place dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues, être salués sur les places publiques et être appelés rabbi par les gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Car un seul est votre maître, et vous, vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père, le Père céleste. Ne vous faites pas appeler docteur, car un seul est votre docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé.
Thank you.
On pourrait exprimer le point de vue suivant, que la prédication de la bonne nouvelle est difficile dans le contexte que nous vivons et qui est terrible. Et quand je parle de la prédication de la bonne nouvelle, je ne parle pas que de la mienne, je parle aussi de la vôtre. Je trouve ce point de vue dérisoire. Surtout, par exemple, en comparant cette mission de prêcher la bonne nouvelle, comparer cette mission à celle d'un médecin ou d'un chirurgien en situation d'urgence absolue, sans moyens et devant un afflux de victimes. Mais le renoncement à la bonne nouvelle n'est pas de mise, ni aujourd'hui et ni jamais. Il semble qu'il y ait des ressources infinies de bombes, qu'il y ait des ressources infinies de personnes à massacrer, quel que soit leur côté d'une frontière et quelle que soit cette frontière, mais selon le point de vue des adorateurs du silence, la capacité d'expression de la bonne nouvelle ne serait pas, elle aussi, infinie. Jésus répond à ce dilemme qui n'en est pas un dans Luc chapitre 19. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » La bonne nouvelle émerge quand la parole de Dieu crée le monde. Ensuite, cette bonne nouvelle a sans cesse été rappelée par l'intermédiaire de prophètes très divers, aux prises avec l'oubli, aux prises avec la catastrophe et aux prises avec la méchanceté, non pas générale, mais essentiellement causée par ceux qui abusent du pouvoir, qui abusent de la corruption, qui dérèglent et les adeptes de ces gens-là. Cette bonne nouvelle, malgré tout, a sans cesse été réinscrite, selon la Bible, dans des alliances toujours nouvelles, à tel point que ça en est presque répétitif. L'humain, dans son inspiration, lit une Bible dans laquelle le Dieu lui pardonne sans désespérer. Jusqu'à Jésus s'est enlevé de la Galilée pour refaire écho à cette bonne nouvelle qu'il adressa, lui, à une population fragmentée, tourmentée et sous la très brutale occupation romaine. De cette réactivation par Jésus de la bonne nouvelle, les chrétiens ont vu la nouvelle alliance ultime, la nouvelle alliance qui pourra enfin s'inscrire dans les cœurs, comme l'a annoncé le prophète Jérémie, inscrite directement dans les cœurs, elle ne sera plus sujette à interprétation, plus sujette à dévoiement, trahison, récupération et toutes sortes de facilités. Les premiers croyants au Christ ont très tôt cru au retour de leur Messie. Mêlant ainsi leur croyance à la croyance répandue de la venue du Fils de l'homme. Parce qu'ils n'étaient pas naïfs au point de croire, dans l'époque où ils vivaient, que tout était accompli. Ils voyaient, ils savaient que l'horizon était lointain, simplement, c'est vrai, ils n'imaginaient pas qu'il fallait encore attendre si longtemps. La situation n'a pas changé, car si nous sommes dans cette nouvelle alliance, et si nous croyons à la bonne nouvelle, deux hypothèses, eh bien nous espérons la venue d'un monde enfin réparé, et donc, quelle que soit la façon et les termes que nous employons, quelle que soit en somme notre théologie de ce qu'on appelle la fin des temps, nous aussi, nous attendons et espérons le retour du Christ. Et comme tous ceux qui nous ont précédés, comme le poète du psaume 13, nous nous demandons parfois « Jusqu'à quand ?»« Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand tu te détourneras de moi ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et chaque jour le chagrin au cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu, fais briller mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai emporté sur lui » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je vacille. Psaume 13. Les croyants au Christ ne comprennent rien de leur propre foi s'ils ne comprennent pas qu'ils vivent dans des temps intermédiaires. Entre la réémergence de la bonne nouvelle incarnée par Jésus-Christ et sa pleine réalisation, s'ils croient, par mégarde, que tout a été fait et dit au début de notre ère, au nom d'une interprétation définitive de l'événement de la croix, non seulement ces croyants se trompent, mais ils ne peuvent que désespérer ou renoncer et plonger dans une tristesse sans fin ou alors devenir cynique. Dans cet entretemps que nous devons bien spirituellement nous approprier, nous ne sommes pas seuls et nous sommes accompagnés en particulier par des textes qui indiquent les raisons pour lesquelles nous sommes encore au milieu du guet ou encore en train d'errer dans un désert a priori sans limite. Comme par exemple notre texte du jour. Ce que dit ce passage de Matthieu est accablant. Oh certes, il vise les pharisiens, mais sa principale cible, c'est notre conscience. Cette parole disait aux disciples, disait aux premiers croyants au Christ, et nous dit à nous qu'il n'est plus concevable de se laisser abuser par les artifices de la puissance autoproclamée. En tant que chrétien, adepte de ce Jésus à la parole si aiguisée, eh bien nous avons beaucoup de références dans divers champs éthiques pour nous aider dans la mission de ne pas renoncer à la proclamation de la bonne nouvelle. Mais à travers ce texte du jour, nous trouvons de la force pour forger notre mission pratique d'aller ridiculiser les puissants qui disent et ne font rien de ce qu'ils disent. Tous ou presque aujourd'hui parlent d'or, tous ou presque évoquent la justice, tous ou presque évoquent la réparation, la restitution, le bonheur, la croissance, la technologie ou même la paix. Mais l'immense majorité de ces parleurs hauts ne font que du trafic langagier. Soit ils ne font rien, soit ils font autre chose. Pour toutes sortes de raisons qu'ils préfèrent cacher, qu'ils masquent par leurs paroles et aujourd'hui, on dirait leur communication. Et la crédulité collective est si puissante, puisque c'est un élément constitutif de notre espèce humaine, que la majorité les suit, même sans contrainte physique. Ce texte de Matthieu accable ceux qui nous accablent, car ils pensent que nous n'avons rien d'autre à nous accrocher que leurs paroles. Mais c'est faux. Et ce qui va suivre pourrait être considéré comme naïf ou irénique. Mais ce n'est pas mon intention. Et puis si c'est ça, tant pis. Nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu qui n'est pas transmise par un maître, par un pasteur ou un quelconque père, pour reprendre les termes de l'évangile du jour, mais celle qui s'inscrit dans les cœurs comme elle se plante ou s'enracine en nous, comme le dit encore la lettre de Jacques. C'est pourquoi rejetez tout ce qui salit et tous les excès dus à la méchanceté, accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Cette parole-là, si nous nous mettons en disposition pour la recevoir, nous n'aurons pas à nous préoccuper de savoir si elle est sincère ou non, puisque ce sera notre cœur lui-même qui parlera, qui mobilisera notre conscience et qui développera notre sens de la justesse et de l'action juste. Les puissants en parole se repaissent de la confiance qu'ils utilisent comme matière première, comme carburant, comme arme. Nous font croire que puisque nous les voyons sur leur promontoire, ils sont sincères. Mais c'est une illusion provoquée parce que nos oreilles, contrairement à nos yeux, sont toujours fatalement ouvertes. Jésus, dans ce texte du jour, nous indique, à nous qui errons sans cesse et désemparés dans un monde qui n'en finit pas de se torturer lui-même, que nous ne devons faire confiance ultimement qu'à la parole de Dieu, celle qui a été plantée dans nos cœurs, nous dit l'épître de Jacques. Cela s'appelle la conscience, celle qui pourra être immunisée contre le mensonge et le cortège de cruauté masquée qu'il engendre. Ce mensonge permanent qui retarde notre prise de conscience et retarde, selon la Bible, selon les mots bibliques, la venue même du règne de Dieu. Les protestants, parmi toutes les confessions, sont en fait les plus armés pour cette mission-là. Ce sont eux, les protestants, qui se reconnaissent comme ayant été fondés par un acte individuel à la toute fin du Moyen-Âge, lequel acte a consisté à ne plus croire le mensonge officiel concernant ces fameuses indulgences. On pourrait appeler cela l'esprit critique, mais cet esprit-là n'est pas suffisant s'il ne se fonde pas dans la parole de Dieu, celle qui est plantée dans notre cœur et qui vient illuminer notre conscience et en conséquence notre conviction et puis aussi nos actes pour que la promesse de justice universelle soit enfin tenue. Amen. Sur votre feuille, à son verso ou recto, ce que vous voulez, il y a la confession de foi que nous allons dire ensemble, et pour cela nous nous levons. Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime et nous porte. Il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain. Sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps. Je crois que Jésus, prophète, nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et auquel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. Un Dieu d'amour selon la Bible, un Dieu pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance invincible. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour le monde. Nous reconnaissons une seule Église, universelle et connue de Dieu seul. Elle existe par-delà les institutions chrétiennes et les frontières religieuses. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Amen. Et nous prenons ce chant qui est le 4707, page 736, si Dieu pour nous s'engage. 4707.